Soyez les bienvenus sur RCM. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur RCM, votre radio au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.
Chut, on écoute la télé avec les piscines de l'étang. Votre concessionnaire Everblue en Charente-Maritime. Construction, rénovation, entretien, produits piscine. Deux adresses à votre service. 116 cours Paul Doumer à Sainte et 17 avenue du Général de Gaulle à La Tremblade ou sur lespiscinesdelétang.com.
RCM, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute en écoute la télé, l'hebdo sur RCM. Vous nous écoutez chaque lundi à 14h par exemple sur le 99.2 à Libourne et Saint-André de Cubzac ou encore sur le 103.0 à Jonzac et Montendre. Pendant une heure, on va passer en revue l'actualité culturelle de la semaine ensemble avec tous nos invités. Et ça tombe bien puisque tout de suite, voici le sommaire de l'émission.
On est vraiment bien sans terre.
Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio.
Et au sommaire de votre nouvelle émission hebdo de Chute, on écoute la télé. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir de vous consacrer deux coups de cœur ciné avec le premier dans un instant qui concerne eh bien, le film de Nicolas Maury, Garçon chiffon. On aura le plaisir de recevoir Nicolas Maury qui sera notre invité, accompagné de deux de ses comédiens. Rendez-vous à ne pas manquer d'ici quelques instants. Et puis, c'est T'en fais pas, je suis là. C'est le téléfilm événement sur l'autisme ce soir sur France 2 avec Samuel Le Bihan. Le réalisateur Pierre Isoard sera en ligne avec nous pour nous en parler. Et puis nous terminerons l'émission avec notre spécial Miss. Le film est sorti mercredi dernier par surprise au cinéma avec une semaine d'avance. À cette occasion, Ruben Alves, le réalisateur, sera accompagné aujourd'hui de Pascal Arbillot, Stéphie Selma et Alexandre Vetter pour nous parler de la sortie de ce très beau film. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Dans Chute, on écoute la télé. Alors on passe tout de suite en revue les audiences de la semaine dernière.
Les tops et flops d'audience.
Allez, on va passer en revue donc les audiences de la semaine dernière avec donc lundi dernier, L'amour est dans le pré qui arrive en tête avec 16,5% de part de marché pour 3 820 000 téléspectateurs. Du côté de Joséphine Ange Gardien, c'est juste derrière avec 3 767 000 téléspectateurs et 16,3% de part de marché. Secret d'histoire sur France 3 arrive à la 4e position avec 1 989 000 téléspectateurs pour 8,5% de part de marché. Le capitaine Marlowe écrase tout le mardi évidemment sur France 3 et ça continue avec 5 306 000 téléspectateurs pour la rediffusion de l'épisode de mardi dernier avec 22,4% de part de marché. Très beau retour pour la France, un incroyable talent, 3 602 000 téléspectateurs et 16,2% du public. Good Doctor sur TF1 arrive qu'à la 3e place avec 3 375 000 téléspectateurs et 14,5% de part de marché. Le Hobbit sur France 2 fait un flop avec 1 680 000 seulement. On passe à mercredi, c'est la série 10% qui faisait son retour avec un très beau score, 3 823 000 téléspectateurs et 17,3% de part de marché. Mais Le meilleur pâtissier sur M6 résiste bien avec plus de 3 millions de téléspectateurs et 15% du public. Et petit retour pour Grey's Anatomy sur TF1 qui ne fait vraiment plus recette en prime time avec seulement 2 697 000 téléspectateurs et 11,9% de part de marché. La carte au trésor sur France 3 s'est pareil fait un petit score, 1 804 000 téléspectateurs et 8,5% de part de marché. Il aura fallu attendre jeudi pour que TF1 retrouve des couleurs avec le grand retour d'Alice Nevers. Et là, c'est un carton plein puisque la série eh bien, arrive en tête des audiences de la soirée. Et puis pareil pour vendredi et Koh-Lanta.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on démarre notre spécial, notre coup de cœur ciné consacré à Garçon chiffon. Dans Chute, on écoute la télé aujourd'hui et on est très heureux eh bien, d'avoir justement Nicolas Maury, son réalisateur, qui est avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va recevoir d'ici quelques instants Arnaud Valois, également Théo Christine. Garçon chiffon, on pourrait presque croire à une autobiographie. Et pourtant, ça ne l'est pas.
Exactement. C'est une fiction enchantée. C'est une fiction close to home. Donc, c'est en anglais, ça veut dire proche de sa maison. Mais ça n'est pas la vraie vie. C'est un monde de cinéma que j'ai créé de bout en bout. Alors, j'ai voulu filmer mon Limousin natal. Ça, c'est la vérité. Il y a des lieux de mon enfance, des lieux dans lesquels j'ai grandi. Il y a des sensations que j'ai reconnues, vécues avec ma mère, des sensations avec le fait d'être amoureux, les sensations, le fait d'avoir un animal domestique qu'on vous offre, des choses ça, qui sont proches de ce que j'ai pu traverser, mais évidemment, c'est un film construit, bâti, Et je préfère dire que c'est un film personnel à un film autobiographique. Voilà.
Un film personnel. Et on retrouve vraiment toute la poésie que tu peux composer aussi dans tes personnages, Nicolas. Je trouve c'est un film très poétique.
Oh bah ça me touche beaucoup parce que, effectivement, pour moi, de faire un film poétique, c'était ma politique à moi. Et puis de faire un film surtout qui répare, un film tendre, un film parfois avec des zones très sombres parce que le personnage est aussi très angoissé, très
torturé.
Oh, ouais. Il vit beaucoup de désastres dans cette première partie du film, mais il va se réparer dans sa terre-mère auprès de Nathalie Baye, qui interprète Bernadette, sa mère. Et voilà, donc il va quand même aller vers la lumière, ce Jérémy. Voilà.
Comment on arrive à convaincre Nathalie Baye de jouer sa mère son premier film, parce que c'est ton premier film en tant que réalisateur.
Bah, je crois que Nathalie voyait à peu près qui j'étais comme acteur. Alors, ça ne présumait en rien ce que j'allais être comme cinéaste. Mais
ah, t'avais vu dans 10% peut-être.
Voilà. Et elle a beaucoup aimé le texte, le scénario. Et elle a reconnu quelque chose dans le film, dans le projet du film. Elle a adoré le personnage de Jérémy. Elle m'a déjà beaucoup parlé du personnage de Jérémy que j'interprétais. Et puis après Bernadette, on a fait des séances où elle voulait indiquer 2-3 changements. Mais elle a tout de suite vu cette femme. Et ça l'a beaucoup amusée. Et bouleversée aussi, d'interpréter cette mère qui est cette femme en fait. Parce que souvent au cinéma on dit « Ah les mères et tout », mais les mères ce sont des femmes. Et elle essaye de sortir, elle a campé cette Bernadette. J'aurais pas pu trouver une comédienne plus magnifique pour jouer ce rôle.
Il y a combien de temps que tu travailles sur le projet? Combien de temps ça a mis pour éclore?
Ça a mis pas mal d'années parce que j'ai commencé à écrire il y a une dizaine d'années. Mais il y a eu des pauses parce que j'ai dû faire 10%, j'ai beaucoup travaillé comme acteur. Donc j'ai fait des pauses et puis après quand j'ai repris, on va dire il y a à peu près 3 ans, je n'ai pas arrêté. Et j'ai mené à bout de bras ce film qui s'est fini de tourner mi-octobre de l'année dernière. Voilà.
Alors là, il sort au cinéma, ça y est. Est-ce que t'es un petit peu anxieux? Comment tu ressens les choses là maintenant à quelques jours de la sortie?
Je suis à la fois fébrile, mais je l'aime mon film et j'aimerais vraiment que mon film c'est comme une personne qui aille rencontrer les gens. J'aimerais qu'il touche les gens. J'aimerais que les gens pleurent, rient, qu'ils ne sachent pas si pleurer ou rire. J'aimerais beaucoup ça. J'ai fait ce film pour ça. C'est comme toutes les premières fois. J'ai le trac. Voilà.
Tu joues beaucoup avec l'ascenseur émotionnel, oui, tout au long du film.
Oui, je joue beaucoup avec ça parce que je crois que ça me ressemble aussi. Et ça ressemble à nos vies parce qu'aujourd'hui, rien n'est moins certain que nos vies, que l'avenir. Et donc, je trouve ça plus intéressant de vivre les émotions pleinement plutôt que de se mentir. Et alors Jérémy, c'est jusqu'au boutiste, il est un peu infernal dans sa façon de vivre sa vie. Mais il va se calmer, il va s'apaiser, il va devenir un homme. Je crois, à la fin du film.
Moi, je me suis dit quelque chose. À un moment donné, j'ai dit, comment il va faire? C'est son premier film. Et il se retrouve derrière, devant la caméra. Mmh. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à abandonner un des deux? Ou pour toi, c'était clair? C'était soit tu jouais et tu réalisais, ou tu ne le faisais pas?
Exactement, c'est la deuxième option. Pour moi, ça faisait partie d'un tout. C'est mon geste de cinéma. C'est la situation du film. Il fallait que ce soit moi.
Parce que tu n'as pas choisi la facilité, là, quand même.
Non. Surtout que le rôle, il faut le jouer, quoi.
Oui.
Et le personnage est dépressif, mais moi, j'avais pas le droit d'être dépressif en tant que cinéaste. Donc du coup, c'était deux températures chaud-froid. Donc ça rendait un petit peu schizophrène. Mais oui, je devais être un capitaine de bateau. Et à la fois, quand je joue, Jérémy n'est pas du tout capitaine de sa vie. Donc, mais au bout d'un moment, vous savez, c'est comme un sport de haut niveau, le jouer. C'est au bout d'un moment. On voit les choses. Mais je filmais beaucoup mes partenaires avec élégance et je me réservais mes plans sur moi, les contre-champs, en fin de journée. Parce que, voilà, j'allais pas non plus en rajouter à me filmer en long, en large, à travers. Jérémy, on le voit beaucoup, mais il est aussi bousculé par les rencontres. Donc, je voulais vraiment filmer les autres acteurs. Voilà.
Toi qui es un enfant de Saint-Thierry-la-Perche, dans le Limousin, qui rêvait de cinéma certainement quand il était jeune garçon, te retrouver pour ton premier film en tournage, comme ça, sur tes terres du Limousin. Ouais. Tu t'es dit quoi quand t'es arrivé et que t'as planté le premier jour de tournage? Ça a dû être une émotion assez forte pour toi.
C'était vraiment très fort parce que, en plus, il y a eu les repérages en Limousin, donc on emmène toute une équipe avec soi, souvent de Parisiens, et de leur faire découvrir la beauté. Ils n'ont pas tout de suite ressenti, mais après, ils ne voulaient plus quitter le Limousin. On faisait des fêtes les soirs après avoir tourné, et puis on est dans un lieu magnifique, vers Saint-Léonard-de-Noblat, un lieu très isolé, très protégé. J'ai la chance, ça c'est le destin, mais Nathalie Baye a eu une maison en Creuse pendant des années. Elle aimait particulièrement le Limousin. Et voilà, j'avais besoin de leur transmettre ce goût du pays. Et c'est comme si j'avais été par exemple algérien et que j'aille en Algérie. On a besoin d'embarquer quand même son équipe. Et l'équipe a été plus que charmée par la région, par cette beauté que je crois qu'on perçoit dans le film, cette beauté de cette terre, quoi, qui moi me fatiguera jamais, m'ennuiera jamais.
Alors, Jérémy lui arrive une cascade d'emmerdes, je crois qu'on peut le dire comme ça. Hein. Il se fait plaquer, c'est la fin de sa relation. Oui. Enfin bref, il vit tout un tas de drames qu'on va pas spoiler, évidemment. Oui. Et il va se reconstruire à l'aide de Bernadette, oui, sa maman. On peut situer un petit peu le film comme ça, oui, mais il arrive tellement de choses à Jérémy en 1h30 que franchement, voilà, on va pas spoiler plus, évidemment, pour laisser découvrir aux spectateurs, mais il lui en arrive.
Hein. Il lui en arrive de sacré déconvenu. Et voilà, il va être bousculé, mais c'est un peu ma façon un peu sadique. Là, pour le coup, j'ai bien aimé le tremper, ce Jérémy, dans des choses très, très, très compliquées pour qu'après, on ait envie quand même qu'il aille vers la lumière et que quelque chose d'heureux lui arrive. Mais moi, j'ai toujours aimé, par exemple, vous parliez d'Hervé dans 10%, mais j'ai toujours aimé les personnages qui réussissaient pas, les personnages qui perdent, les personnages qui n'ont pas ce qu'ils veulent.
Oui, c'est mais très qui se révèlent à un moment donné. C'est le cas d'Hervé, et nous, oui, on adore Hervé, hasard du calendrier, évidemment. Hervé is back, ouais, pour la dernière saison, l'ultime saison de 10%. Ouais. Et il va être back plus que jamais, là, dans,
ouais,
cette dernière saison,
ouais,
aussi.
Ouais, ouais, ouais. Là, Hervé, c'était très dur pour moi de le quitter, ce personnage.
J'imagine.
Parce que c'est quelque chose qui presque m'appartient plus, parce que ça appartient aux gens. Il y a des gens qui disent, oh, mais Hervé, je le connais, c'est soit un ami à moi, soit quand il fait ça, mais je me reconnais. Enfin, donc c'est très intéressant d'avoir la responsabilité d'un personnage qui soit aimé comme ça. Donc avec les scénaristes, j'ai voulu quand même qu'il continue à vivre quelque part. Donc vous allez voir, il va, quelque chose du destin va lui arriver. Et voilà, ça va, il va continuer à vivre dans une zone un peu imaginaire, mais il va continuer
dans sa bulle, ouais, un peu en quelque sorte. Ouais. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, Garçon Chiffon, ça sort le 28 octobre au cinéma. C'est le film coup de cœur, évidemment, à ne pas rater. C'est ton premier film au cinéma, donc on est là évidemment avec toi pour te soutenir dans cette aventure. On va écouter tout de suite la bande-annonce, si tu veux bien.
Merci.
C'est parti.
Ça raconte quoi ? Tu me fais le speech ?
Le pitch.
C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider.
C'est pour toi.
Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramzy, voilà.
Pourquoi on veut pas de moi ?
Pour ces cons-là, tu es trop.
Trop ?
Albert, tu rejoins chez sa mère ?
Ben non, on est en froid.
T'as regardé dans mon téléphone ?
J'aurais une raison de le faire.
Monsieur, le cabinet est fermé.
C'est qui ?
Qu'est-ce que tu fais là ?
Je suis son mari, monsieur.
On n'est pas mariés, tu sors d'ici.
Tu sortes !
Soigne ta jalousie.
Qu'est-ce qui va pas avec moi ?
Si t'avais été acteur dans les années 60, t'aurais pas arrêté d'enchaîner les films.
Télétransporte-moi.
Voilà donc la bande-annonce de Garçon Chiffon, ça sort le 28 octobre au cinéma. On va parler des rôles d'Albert et Kevin dans un instant, puisque Théo, Christine, justement, et notre ami Arnaud Valois vont nous rejoindre tous les deux. On va parler de leur rôle. Nicolas, merci d'être passé nous voir.
Ben c'est moi qui vous remercie, je suis très ému de votre soutien et que le film ait eu un écho comme ça en vous.
Merci et à très bientôt Nicolas.
À bientôt.
Marque une petite pause et on se retrouve dans quelques instants dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
Thank you.
écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on continue notre spécial Garçon chiffon. Je vous rappelle que le film de Nicolas Maury sort le 28 octobre au cinéma. Nicolas qui vient de nous quitter, mais pour laisser la place eh bien, à deux de ses comédiens, Arnaud Valois et Théo Christine, qui sont avec nous tous les deux. Bonjour, Théo.
Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui joue les rôles d'Albert et Kevin dans ce film, tout en sensibilité. Voilà, on a planté un petit peu le décor avec Nicolas Maury. Théo, on va parler un petit peu de Kevin, pour entrer un peu dans le vif du sujet directement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce personnage déjà ?
C'est un personnage qui, dans le scénario, ça raconte pas grand-chose sur ce qu'il est ou ce qu'il fait de sa vie. On sait pas grand-chose de lui en fait, mais on voit clairement, surtout à l'image, que c'est deux personnes très différentes entre Jérémy et Kevin. Jérémy, le personnage que joue Nicolas, qui vont être fascinés l'un et l'autre par leurs différences en fait, et c'est ce qui va faire que ça va les rapprocher, qui va en être une espèce d'histoire entre l'amour, amitié, on sait pas trop.
Ah oui, c'est sûr que la différence, c'est ce qui les caractérise, voilà, tous les deux.
Et c'est ça qui m'a séduit, en fait, le fait que la différence de deux personnes fasse naître quelque chose de beau entre eux. C'est important.
Arnaud, Albert?
Albert, c'est aussi... Alors, il y a beaucoup de différences avec le personnage de Jérémy, mais c'est pas les mêmes différences. Eux, ils sont en couple depuis à peu près 7 ans. On les découvre au début du film en fin d'histoire, en fait. C'est l'originalité, une des originalités du film. Et c'est un garçon qui encaisse beaucoup la jalousie de Jérémy, qui est joué par Nicolas, et qui est peut-être pas si clair que ça.
Il a peut-être des choses à se reprocher.
Peut-être.
Effectivement. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que cette relation prend l'eau, clairement.
Oui, bah, c'est aussi... deux personnages très très différents, donc je pense que leur histoire s'est nourrie au départ de ces différences-là, et qu'au bout d'un moment, quand les sentiments s'évaporent un peu, les différences deviennent un problème et non plus une force.
Arnaud, tu connaissais Nicolas avant ou pas ?
Je connaissais un tout petit peu Nicolas, on s'était rencontrés plusieurs fois auparavant, mais je pouvais pas dire que c'était un ami ou quelqu'un que je connaissais très bien.
Tu l'as vu dans 10%?
Je l'ai vu dans 10%, je l'ai vu dans beaucoup d'autres films avant. Je l'avais découvert avant 10%, je me souviens de lui dans un film de Noémie Milovski, Faut que ça danse, où il jouait un conseiller bancaire. Et je m'étais dit, mais qui est cet acteur? C'était une scène avec Jean-Pierre Marielle et il était absolument dingue.
Ah, il est incroyable. Théo, tu connaissais toi Nicolas avant?
Non, du tout.
C'était une rencontre?
Ouais, une vraie rencontre.
Et alors,
comme dans le film.
Il est comment? Parce qu'on le connaît maintenant en tant que comédien, évidemment, et pour tous ceux qui l'ont découvert, puisqu'il a été découvert vraiment en majorité dans 10%, il a explosé vraiment dans 10%, Nicolas. Comment il est en tant que réalisateur?
Il est généreux, il est patient et il est passionné, surtout. Il est amoureux, en fait, de ce qu'il fait, du cinéma, que ce soit cinéma, théâtre, de l'art qu'on fait, il est vraiment amoureux de ça. Ce qui fait que quand il veut raconter une histoire, c'est quelque chose de nécessaire et qu'il a au fond du bide vraiment. Et moi, c'est ça qui m'a accueilli chez lui quand je l'ai rencontré pour la première fois.
Oui, qui t'a marqué.
J'ai compris que c'était pour un premier casting, il y avait vraiment quelque chose de nécessaire dans ses yeux. Ça le touchait et c'était la chose la plus importante pour lui à faire à ce moment-là. Et je pense que quand on fait un film, c'est la bonne marche à suivre, je trouve.
Et c'est un film qui lui ressemble tellement, au final, Nicolas. Pour le coup, quand t'as lu le scénario, toi Théo, tu t'es dit quoi?
Comme c'est un film qui, pour moi, je le vois un peu d'un genre nouveau et tout, à la première lecture, j'étais persuadé de rien en fait. J'arrivais pas à m'imaginer le film vraiment dans ma tête, quel genre de film c'était, tout ça. Et c'est devenu très clair quand j'ai rencontré Nicolas la première fois, en fait.
Parce que malgré l'histoire bouleversante, c'est quand même aussi un peu une fable poétique. Il y a beaucoup de poésie aussi dans
Exactement.
Ce scénario et dans ce film.
Ouais, c'est ça qui est intéressant, d'allier la poésie au drame, à la mélancolie, tout ça, machin, à l'amour, à tout ce qui se passe dans le film. En fait, moi, j'ai trouvé ça, c'est ce qui m'a séduit.
Arnaud, qu'est-ce qui t'a plu, toi, justement, quand t'as lu le scénario?
Alors, au scénario, c'était tout le côté humour décalé. Et maintenant que j'ai vu le film, je trouve qu'il y a beaucoup plus que ça encore. Il y a énormément d'émotions, il y a 3, 4, 5, 6 films dans un film, avec des rythmes différents, avec des intentions différentes. Mais la première découverte quand j'avais lu le scénar, je me souviens de la scène que les spectateurs découvriront avec Laure Calamy. Déjà, alors on a fait encore un truc encore plus fort que ça, mais déjà au scénario c'était exceptionnel.
Quel est votre meilleur souvenir de tournage à tous les deux, toi Arnaud, alors que ça soit devant ou derrière la caméra, hein. Ça peut être une fête de fin de tournage, ça peut être n'importe quoi.
C'est dommage de dire tout, mais c'est vrai aussi, quoi. C'était tellement une fête, tous les jours, à chaque fois. Ouais, c'était.
Mais il n'y a rien de plus beau quand on fait son métier de comédien, de se lever tous les jours et de se dire, c'est voilà, ça. Là j'ai un rôle qui me convient.
On a la chance de faire un métier déjà formidable, mais quand il y a une rencontre avec une rencontre totale avec un metteur en scène, une équipe, ses partenaires, ça prend. C'est pour exactement ça, pour la raison pour laquelle on fait ce métier, quoi.
Toi Théo, est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué, que ce soit le tournage d'une scène ou
non? Pas forcément, non, vraiment pas. Dans tous les projets que j'avais fait avant et tout, c'est la manière de travailler de Nicolas qui m'a touché et intéressé. J'ai beaucoup appris et j'ai su que c'est surtout comme ça que je voulais travailler, parce que pour moi le cinéma c'est ça. Que ce soit l'équipe, en fait, il nous a embarqué dans son navire et on était tous dans une espèce de bulle qui flottait, mais doucement mais sûrement, et où on était calme, on est tous bien dedans. Que ce soit entre comédiens, entre l'équipe technique, on était vraiment vraiment une petite famille, quoi. On dit souvent ça, mais là, c'était vraiment quelque chose de reposant, d'apaisant et de beau, franchement. J'ai que du positif qui ressort de ce tournage.
Bon, pour terminer le tournage en Nouvelle-Aquitaine, alors?
Eh ben, moi, je connaissais pas du tout. J'avais jamais été à Limoges et tout, machin. Et non, ça m'a fait du bien.
T'as découvert les terres de Nicolas?
Ouais,
en plus.
Ouais, exactement. En plus, j'avais une moto, donc j'ai pu un peu faire de la moto dans les champs et tout. J'ai adoré. Non, c'était super, franchement.
Et pour toi, Arnaud?
Moi, malheureusement, j'ai eu toutes mes scènes à Paris.
Bah oui.
Donc je me suis plaint, mais
t'as pas pu aller faire un petit tour sur le tournage à Limoges?
Non, il y avait été question que le Skype, on le fasse vraiment en situation réelle, moi dans une pièce, lui dans l'autre, dans le Limousin.
Ouais.
Et malheureusement, pour des questions budgétaires, c'était trop compliqué. Bon. Donc moi, c'était tout à Paris.
Bon, t'as pu mais je connais, visiter le Limousin en vacances.
Exactement, je connais déjà la Nouvelle-Aquitaine et j'adore cette région.
Bon, merci à tous les deux, merci Théo, merci à Arnaud d'être passé nous voir. Garçon Chiffon, je vous rappelle que ça sort le 28 octobre au cinéma. Et on va se quitter avec un petit extrait. Merci à tous les deux et à très bientôt.
Merci, à plus tard.
Ça va mon chiffon?
Ça va, j'arrive demain.
Je descends pour y voir plus clair.
Mais qu'est-ce que t'as mon petit chose?
T'as l'air tout chose.
Pourquoi tu me parles jamais de tes amours?
Plus je l'aime, plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi.
Ça va aller mon chiffon.
Ah, ne retiens pas tes ailes mâches.
T'aimes bien quoi, cher mec?
C'est une vraie question.
Jérémy, qu'est-ce que tu fais?
Je prends mon texte pour l'audition.
Ne cherche pas à comprendre.
Merci pour tous mes mères.
Vos sœurs.
Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé.
Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie?
Mais tu fais de la.
Ton père et moi, on n'a pas eu de chance.
Tu pourras.
Mais je t'ai eu.
Mais ça, c'est énorme.
Alors là, je suis heureux.
Avec toi.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé dans Chute, on écoute la télé avec ce soir, T'en fais pas, je suis là, un téléfilm inédit diffusé sur France 2, réalisé par Pierre Izoard, qui est de retour dans l'émission parmi nous. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci. Enchanté. Merci d'être avec nous, Pierre, qui est un des réalisateurs fétiches de la série Alex Hugo, qui cartonne littéralement sur France 2, qui pulvérise des scores. Et puis, Samuel Le Bihan, que tu retrouves, Pierre, dans ce téléfilm. Et je crois que pour Samuel, c'est un sujet qui lui tient très à cœur, qui est l'autisme qui va être évoqué ce soir, Pierre.
Oui, absolument. Samuel, il ne s'arrête pas, bien au contraire, à être qui est atteint d'autisme. Et effectivement, il est très impliqué dans ce combat. Il est très impliqué pour faire parler du problème de l'autisme et essayer de faire bouger un peu les choses. Et donc, comme nous, effectivement, on se connaît bien avec Samuel, c'est vrai qu'un jour, il m'a demandé si ça m'intéressait de travailler sur un projet sur l'autisme. Et évidemment, j'ai été très excité par l'idée de travailler sur ce thème que je ne connaissais pas et qu'il a fallu que je découvre. Dans laquelle je me suis beaucoup investi également.
Mais Pierre, comment t'as réagi, toi, quand Samuel t'a parlé de cette idée qu'il avait et de la confiance qu'il mettait en toi pour justement réaliser son idée?
J'ai été très flatté, très enthousiaste à l'idée de travailler sur un projet comme celui-ci. Mais par contre, j'étais un petit peu stressé, évidemment, parce que moi, je ne suis pas confronté à l'autisme au quotidien. C'était un domaine que je connaissais de très, très loin. J'étais un petit peu enfermé dans certains clichés et j'avais peur de ne pas être à l'auteur du sujet et je ne voulais surtout pas trahir les gens qui sont confrontés à ce handicap tous les jours et qui doivent se battre avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Et donc, du coup, je me suis énormément impliqué. J'ai rencontré beaucoup de monde, des éducateurs, j'ai rencontré des enfants autistes, j'ai rencontré des parents, j'ai rencontré des associations. Et j'ai beaucoup discuté avec Samuel, qui m'a fait part de beaucoup d'anecdotes de la vie quotidienne, d'anecdotes qu'il avait lui-même vécues ou qui lui avaient été rapportées par tous les contacts qu'il a dans l'univers de
l'autisme. Dans ce domaine, oui, bien sûr. Alors, on va suivre le parcours d'un père en pleine rédemption. Je dirais presque ça, Pierre, dans ce film. C'est vraiment l'histoire de Jonathan Rivière qui a complètement, quasiment abandonné son rôle de père et qui va le redécouvrir, qui va le découvrir au fur et à mesure du téléfilm, qui va se redécouvrir père en même temps. Un rôle qu'il avait complètement oublié, finalement.
Oui, c'est ça. C'est un film sur l'autisme, mais c'est aussi un film sur la paternité, sur la découverte et le bonheur de la paternité. En fait, c'est un père qui a complètement abandonné, qui a fui le problème dès le départ, qui se donne bonne conscience en payant grassement son ex-femme qui s'occupe seule et à temps plein de cet enfant. Mais lui n'a aucune relation avec cet enfant. Il n'a jamais voulu en construire. Il a toujours pris ses distances, beaucoup par l'acheté. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Et puis, la vie fait que son ex-femme ne peut plus s'occuper de son enfant et il lui revient 24 heures sur 24. Et à partir de là, il va être confronté directement à la problématique de l'autisme. Et ça va pas être très simple. Donc, il va se heurter dans un premier temps à un mur. Et puis, petit à petit, en découvrant aussi ce que c'est que la paternité, il va s'ouvrir et ils vont nouer tous les deux avec cet enfant une relation très forte.
Oui, on va suivre vraiment le parcours d'un père qui va jusqu'à déléguer le cadeau d'anniversaire de son fils, jusqu'à complètement le découvrir. Il est bouleversant, Samuel, dans ce rôle aussi. Il t'a étonné, toi, à certains moments?
Oui, alors il y avait plusieurs choses qui étaient extrêmement complexes. La plus grosse difficulté, c'était l'enfant. Il fallait trouver un jeune acteur qui puisse interpréter de manière très juste un enfant autiste. Et ça, c'était vraiment l'inconnu. C'est Romain Villedieu qui joue cet enfant.
Il est brillant, Romain.
Il est brillant. Il est incroyable. Mais c'est toujours le risque dans ce genre de film que le jeune comédien ne soit pas à la hauteur du personnage. Et donc, du coup, ça fout le film totalement en l'air. Or, donc, la pression était pour moi beaucoup sur ce rôle-là. Mais Samuel, effectivement, j'ai bien vu, moi, en comparant par rapport à Alex Hugo, que sur ce projet-là, il allait chercher des choses un peu intimes. Dans l'émotion qu'il donne, je suis sûr, il faudrait lui poser des questions, mais je suis sûr qu'il allait chercher des choses un peu personnelles, quand même.
Il peut pas être avec nous hein, aujourd'hui, parce qu'il est en plein tournage, hein, Samuel, mais on l'embrasse, bien évidemment. On peut saluer aussi la performance, quand même, de Lizzie Brochéré, parce que vous l'avez découvert, peut-être, en tant que médecin dans le bazar de la charité. Et elle est incroyable, Lizzie, aussi, dans ce rôle de Marie.
Oui, c'est une comédienne sublime, très très forte, très très talentueuse. Pour moi, c'était une évidence qu'elle devait incarner ce personnage. Quand je l'ai rencontrée au casting, vraiment, c'était une sorte de coup de cœur. Elle s'est énormément investie. J'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Je l'ai emmenée, elle aussi, et avec Roman, l'enfant, rencontrer les autistes, rencontrer les éducateurs. Il y a eu un énorme investissement de tout le monde. Et Lizzie, oui, donner le pendant à ce père, et nous guider un petit peu, puisque c'est elle qui a la connaissance dans le film, c'est elle qui porte la connaissance sur l'autisme. Et donc, je vais être à la fois un tout petit peu didactique pour, vis-à-vis de ce père, expliquer ce que c'est que l'autisme, tout en étant dans l'émotion, dans une espèce de colère de voir ce père qui ne s'en occupe pas. Je suis vraiment enchanté de travailler avec elle et je suis vraiment très, très heureux de voir comment elle a porté ce personnage.
Mais moi, en tout cas, je vous invite à découvrir hein, ce téléfilm ce soir sur France 2. T'en fais pas, je suis là. Et Pierre, je suppose que Alex Hugo continue, vu les succès d'audience des derniers épisodes inédits. Je suppose qu'il y a de nouveaux épisodes en préparation.
Oui, oui, je suis en pleine écriture. Moi, avec le Covid, je n'en ai pas tourné cette année parce que j'ai été décalé. Et donc, j'ai dû en tourner deux l'année prochaine, et notamment un qui doit se passer pour la première fois dans la neige, en hiver. Donc, je suis en pleine écriture. C'est pas simple parce que ça ramène de la complexité de tournage.
Ah oui.
Il n'y a pas simple de les tourner quand il fait beau. Alors, au milieu de l'hiver, ça va être encore plus compliqué. Mais oui, oui, il y a une belle aventure qui se profile là, que je vais tourner au mois de mars. Et puis ensuite, je dois tourner un autre Alex Hugo au mois de septembre, qui, lui, est partiellement écrit déjà. Donc, il y a une belle année en perspective, absolument.
Bon, Pierre, merci d'avoir été avec nous. En tout cas, découvrez donc ce téléfilm ce soir sur France 2. T'en fais pas, je suis là. Et tout de suite, eh bien, un petit extrait pour terminer. Merci et à très bientôt, Pierre.
Merci, au revoir.
Inédit, lundi soir.
J'ai pas de bonne nouvelle à t'annoncer. On a pu l'opérer d'urgence, mais son état reste préoccupant.
Il a besoin de vous, maintenant que sa mère est absente.
Calme-toi, calme-toi. Faut que vous repreniez, je peux pas le garder ici, moi. Il peut pas bouffer tout seul. Il sait pas se laver. À quel moment il est censé avoir une vie normale?
Si je suis honnête, je me dis que j'y arriverai pas.
T'en fais pas, je suis là. T'en fais pas.
Oui, bravo!
Plus je regarde ce gamin, plus je me dis que je le connais pas. Parce que toute ma vie, j'ai voulu le fuir.
Allez, viens, mets ça.
Le bleu, ça brûle.
Mais non, le bleu, ça le brûle bleu, pas. Ça brûle.
T'en fais pas, je suis là. Samuel Le Bihan, éperdument père. Inédit, lundi soir à 21h05 sur France 2.
Indiscrétion, scoop.
Scoop.
News. Tout de suite, l'infomédia.
Et dans l'infomédia, cette semaine, c'est le gros succès de TF1, la série Balthazar, qui est donc de retour dès le jeudi 12 novembre avec deux épisodes inédits dès 21h05, avec toujours Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles au casting. Et dans le premier épisode, Balthazar parcourt les océans envoyés depuis 6 mois pour oublier les événements tragiques de l'année précédente et accostant sur une île paradisiaque, il décide d'amarrer pour la nuit, mais un cadavre carbonisé tape contre la coque. Balthazar, malgré ses réticences, examine le corps. Et oui, quand on est légiste, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein. Ensuite, c'est l'ex numéro 2 de France Télévisions, Takis Candidis, qui retourne chez son ancien employeur, la société de production Banijé, en tant que conseiller en charge de la fiction. Takis Candidis avait annoncé début septembre son départ du groupe public, où il était directeur général délégué à l'antenne et au programme depuis 2 ans et demi, pour renouer avec son ancien métier de producteur de séries. Avant France Télé, Takis Candidis était directeur de la fiction chez Banijé, numéro 3 européen de la production télévisuelle, où il était chargé de l'expansion internationale. Dans sa nouvelle fonction de conseiller, son rôle sera d'apporter des projets de coproduction et de fiction premium en Europe du Sud, précise Banijé, qui souhaite accélérer ses investissements dans la fiction. A noter également que les fidèles téléspectateurs de Plus belle la vie vont avoir une surprise et vont trouver du changement dans les prochains jours. Dans la série quotidienne de France 3, la comédienne Malika Alaoui, qui va se retirer provisoirement des plateaux de tournage en raison du coronavirus. Celle qui prête ses traits à Mila depuis plus de 2 ans maintenant a été identifiée cas contact de proximité et ensuite testée positive pour des raisons sanitaires évidentes. Malika s'est donc temporairement retirée des plateaux de tournage, le temps de dissiper tous les doutes et de se soigner. Et malgré tout, Malika donc précise sur les réseaux sociaux qu'elle va très bien, qu'elle reprendra très vite son rôle. En raison de son rôle central dans les intrigues des derniers épisodes, la production a pris une décision inédite: engager une autre actrice pour reprendre temporairement son rôle. On souhaitera donc la bienvenue à la talentueuse Laura Farrugia, qui va donc remplacer Malika Alaoui une quinzaine de jours, le temps de son arrêt maladie. Et tout de suite, on va passer à notre deuxième coup de cœur ciné. C'est notre spécial Miss, et c'est maintenant dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné consacré aujourd'hui au film Miss. On recevra Pascal Arbillot et Stéphie Selma dans un instant. Mais on va commencer notre spécial avec le réalisateur qui est avec nous, Ruben Alves. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Alexandre Vetter qui est avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Qui nous a beaucoup ému dans ce film que nous, on a eu la chance de voir bien avant tout le monde au Festival de l'Alpe d'Huez. Et il est vrai que Miss, bon, nous, ça nous parle beaucoup évidemment dans notre émission, puisque on est un peu l'émission de radio des Miss dans notre région. Ruben, qu'est-ce qui t'a donné déjà l'envie, l'idée de traiter ce sujet de ce petit garçon de 9 ans qui rêve que d'une chose, c'est d'être un jour Miss France?
C'était une envie de constat de la société aujourd'hui, de me dire les gens qui se sentent en marge, les gens qui se sentent différents, qui ne rentrent pas dans les normes. Ces gens-là m'ont toujours touché. Moi, je suis entouré vraiment de gens souvent assez différents qui se posent toujours des questions de qu'est-ce qu'ils font là, parce qu'ils se sentent un petit peu différents. Et du coup, c'est quelque chose vraiment que j'avais envie de traiter. Et vraiment sur le genre, en ce moment, moi, dans ma vie perso, j'ai eu quelqu'un qui a fait une transition et j'ai accompagné. Et j'ai trouvé la chose la plus dingue et dure dans une vie. Et finalement, je n'ai pas traité le sujet de la transition, mais j'ai traité la complexité de un garçon qui a une féminité et qui veut la vivre. Comment il fait aujourd'hui? Voilà. Ça aurait pu être l'inverse. Hein. Ça aurait pu être une femme qui d'un coup veut vivre sa masculinité, par exemple. Mais bon, là, en l'occurrence, moi, dans ma vie perso, il y avait ça. Et du coup, je trouvais ça intéressant de faire un constat aujourd'hui de ça. Et voilà, donc j'avais ça en tête, mais je n'avais pas encore le bon pitch, comme on dit. J'avais pas l'histoire qui... Le fond, je l'avais, mais c'était la forme. Et je rencontre Alexandre Vetter, parce que je recherchais sur un autre projet, un truc que peut-être j'allais faire. Et quand je le rencontre, je me dis, ok, c'est bon. C'est ce personnage-là, ce film-là, je dois le faire avec lui. Et ça va s'appeler Miss, parce que c'est l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir Miss France. Et ça, on l'a eu, l'idée tous les deux en train de déjeuner, et parce que je lui dis, mais qu'est-ce qui pourrait être le summum, toi, de ton expérience d'être, parce qu'Alex, en tant que mannequin, il expérimentait sa féminité, et du coup, on s'est regardé ensemble, on a explosé de rire quand je lui dis Miss France, il m'a dit, oh, Ruben, fais-moi une Miss France. Et voilà, le pitch était un peu fou, je suis arrivé à mon producteur, j'ai dit à Hugo Gélin, Elissa Galizine, c'est l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir Miss France. Ils m'ont dit, banco, écrit. Et voilà, et j'ai commencé, et alors que je n'avais pas d'atome crochu particulier avec Miss France, et j'ai découvert au fur et à mesure que en fait tous ces comités de région, le comité Miss France, toutes ces filles, un univers très touchant en fait, très touchant parce que bah allez, à 90% ils le font tous sincèrement, vraiment, ils le font tous sincèrement avec le cœur, et voilà. Et puis après Sylvie Tellier en deux molles, ils nous ont ouvert les portes, ils étaient hyper...
C'est incroyable, ils ont tous validé l'idée, quoi.
Ouais, ouais, parce qu'en fait ce qui est super, c'est que ils savaient très bien que c'était une fiction. Donc il se disait, ok, voilà, moi je suis pas là pour taper sur Miss France, j'ai pas écorché Miss France, il y a deux trois trucs, on rigole, voilà, mais franchement c'était pas le fond de mon propos. Le fond de mon propos, voilà, c'est ce parcours là émotionnel de quelqu'un qui trouve son identité, qui trouve qui il est vraiment. Mais après le sujet, en fait, on s'est appuyé sur Miss France parce que je trouvais ça ludique, je trouvais ça sympa pour que les gens en fait puissent voir un sujet qui n'est peut-être pas facile, mais que ce ne soit pas rebutoire, et qu'ils se disent, bah tiens, ça peut être voilà, que ça soit, qu'on ait un smile quand on dit le pitch, et qu'ils se disent, bah ok, on a peut-être envie d'aller le voir. Donc voilà, je trouvais que par ce biais là c'était assez ludique, marrant.
C'est l'avantage aussi de Miss France, c'est que ça rassemble tout le monde dans leur région. Tout le monde est attaché à leur Miss, et donc ils vont tous, c'est aussi une unité Miss France. Donc tous ces fans, tous ces gens qui sont là avec plaisir, avec dévotion, oh c'est une fille du pays, on est là, on est derrière elle, etc. Donc c'est tout ça aussi, ça rassemble. Donc les gens aussi, quand ils voient Miss France, ils se disent, ah bah ça rassemble. Faut penser à ça.
Il y a longtemps que tu regardais l'élection de Miss France. Est-ce que tu l'as regardé déjà étant petit? Est-ce que tu as mis un peu de toi? Est-ce que tu imaginais un jour qu'on puisse te proposer un truc comme ça?
Alors pas du tout. Non, Miss France, bon, ça m'est déjà arrivé de regarder, mais alors vraiment j'étais pas, parce que souvent d'ailleurs ça tombe souvent à mon anniversaire, donc je suis trop occupée à faire la fête pendant que Miss France
au mois de décembre, donc t'es née au mois de décembre,
voilà,
du coup
c'est ça, voilà, c'est ça, et donc souvent trop occupée à faire la fête, mais non, et puis j'aurais jamais pensé faire un rôle comme ça dans ma vie, non, jamais.
Te retrouver avec le générique, le fond Miss France, la scène, le plateau, Sylvie Tellier sur scène, là tu t'es dit quoi à ce moment-là?
Mais je me suis dit, je suis une Miss. Mais ce que c'est vraiment, parce que vraiment dans tout le film, et tout est vrai, et puis même en plus on a eu des vraies Miss qui étaient avec nous, et
Ophélie Mezzino quand même, première dauphine de Miss Monde.
Bien sûr, trop fière d'ailleurs. Et toutes ces filles nous ont dit, mais oui, mais ça se passe vraiment comme ça. Et en fait, vu que j'étais avec toutes ces Miss, moi j'étais au milieu de tout ça, en plus avec Sylvie Tellier, enfin comme vous m'avez dit, le logo, le générique et tout, j'ai dit mais ça y est, c'est bon, je suis vraiment une Miss. Alors d'ailleurs, même j'en ai même rêvé des fois, j'ai dit mais mince, j'ai gagné Miss France ou pas, je sais pas, j'ai vraiment fait le concours mais on l'a pas montré à la télé, c'est bizarre. Mais vraiment ça a été vraiment génial.
Quand il t'a proposé justement ce pitch, quand vous en avez discuté ensemble, est-ce qu'à un moment t'as eu des doutes sur le fait de vouloir le faire ou d'aller jusqu'au bout, ou est-ce que de toute façon coûte que coûte tu voulais aller jusqu'au bout de cette histoire?
Aucun doute. Absolument aucun doute, parce qu'au moment où j'ai vu le film de Ruben, La Cage Dorée, quand je lui ai dit, parce que je l'ai appelé, j'ai dit on va faire un film au cinéma, c'est hors de question qu'on fasse autre chose, les yeux fermés. Donc aucun doute, j'y allais sans aucun problème.
Est-ce qu'il y a des scènes particulières pour toi, Ruben, qui ont été compliquées à mettre un peu en boîte, ou des problèmes d'autorisation peut-être aussi par rapport à Miss France, ou...
Alors moi, évidemment, les scènes souvent difficiles, c'est les scènes de groupe. Donc moi, la partie de la famille, tout ce qui entoure Isabelle Nanty, tous les couscous dominicales, là c'est 8 personnes. Donc là c'est toujours un peu le bordel, mais c'est génial. Donc voilà, ça c'était un petit peu toujours difficile à mettre en place. Et par rapport au concours Miss France, effectivement, c'était de recréer une réalité. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait... On n'était pas dans le plateau Miss France. Mon chef d'éco, Philippe Chiffre, incroyable, il a fait un boulot, et tous les gens autour, le HMC, pour recréer en fait la vérité du plateau. Si bien que quand Sylvie a vu le film, il n'y a pas longtemps, elle a dit « Ah ouais, d'accord, je te prends en directeur artistique, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là » Voilà, parce que les costumes, les décors, voilà, on s'est débrouillé par nous-mêmes, hein, vraiment, on a dû se débrouiller. Et ma crainte, c'était toujours de me dire « Est-ce que ça va faire vrai? Est-ce que ça va pas faire cheap ?» Voilà. Et c'est vrai que les premières images, le retour le soir, quand on regardait avec mes chefs de poste, on fait, ils m'ont regardé, ils disent, ça le fait, Ruben. Regarde, ça le fait. On y croit. Et même moi, j'étais un peu surpris. J'ai fait, ah oui, ça le fait. On y croit. Voilà.
Oui, on y croit. Et vous allez y croire. Moi, je peux vous le dire. Le film Miss sort mercredi au cinéma. Ruben, pour le coup, sur ce film. On a un petit clin d'œil avec notre Miss France 2019, Vaïma Lama Chavez, qui n'a pas de dialogue dans le film, mais qui a un rôle très clé. On va pas le dire là, évidemment, parce qu'on va vous laisser déguster le film, mais elle a vraiment un rôle clé. Est-ce que elle aussi s'est laissée un peu prendre au jeu là-dessus?
Oui, complètement. Moi, j'ai demandé à Sylvie qu'est-ce que tu penses, parce qu'en fait, moi, quand j'ai découvert cette femme, j'ai adoré son discours. Je l'ai trouvée hyper intelligente. Moi, je trouve que depuis très très longtemps, on n'a pas eu une Miss comme ça aussi libre de ses propos. Quand je l'ai écoutée parler justement pile sur ses origines à Tahiti, elle parlait de la féminité. Elle dit mais la féminité n'appartient pas aux femmes. Là-bas à Tahiti, les hommes développent beaucoup plus leur féminité et je l'écoutais parler sur ça. Je me dis mais c'est pas possible. C'est elle en train de parler. On dirait qu'elle a lu mon script. Et du coup j'ai demandé à Sylvie de lui demander si elle voulait bien venir faire un clin d'œil. Et comme vous dites, elle ne dit rien. Mais c'est assez fort ce qu'elle fait, voilà. Vous verrez dans le film à la fin. Et en fait, je trouve que c'est à son image. Ce qui se passe dans le film, c'est vraiment à son image et c'est ce qu'elle m'a inspiré parce que c'était pas prévu ça. Ce qu'elle fait, donc, à la fin du film, ce n'était pas prévu du tout. Et j'ai eu cette idée-là quand je l'ai rencontrée, quand je l'écoutais parler. Et je me dis, cette femme est inspirante, cette Miss est géniale. Et du coup, voilà, j'étais ravi qu'elle soit dans le film. Et ça tombait très très bien que ce soit cette année-là avec cette fille-là.
Bien d'accord. Tu as pu la rencontrer, discuter un petit peu avec elle, Vaille?
Oui, oui, oui. Et puis quelle beauté. Puis même quand elle m'a vu arriver en Miss, alors je pensais qu'elle allait dire sapristi. Non, je sais pas. Mais non, elle m'a dit oh la vache. Elle était restée. Voilà. Oh la vache. Elle était comme ça et j'étais. Moi aussi, j'étais toute timide de la voir et tout. Mais ce qu'elle a une telle. Elle rayonne. Elle a une telle prestance. Elle est là, quoi. Et puis c'est vrai, elle a un moment clé dans le film. Moi, en tout cas, moi je l'aime beaucoup. Je crois que c'est ma Miss préférée. Justement par rapport à son discours sur la féminité, notamment.
Est-ce qu'il y a eu une scène plus difficile à jouer que d'autres pour toi, Alexandre, ou pas?
Alors, bizarrement, par exemple, les scènes les plus compliquées, pour moi, c'était les trucs tout simples, par exemple, genre, passe-moi le sel ou un truc comme ça, c'est des trucs qui sont des fois, ça sonnait faux, ou des trucs très compliqués, alors que par exemple, les grosses scènes où je me préparais vraiment, où je devais pleurer, etc., et ben, c'était compliqué, mais en même temps, ça venait assez rapidement, donc ce seraient les petites scènes qui pourraient être anodines, passe-moi le sel, qui définit finalement, donc on a du mal à le dire de manière, ça sort pas au bon moment, ou c'est un peu coincé, mais finalement les grosses scènes, après ouais, peut-être que bon, celle qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est quand je fais un discours devant plusieurs personnes, c'est vrai que c'est impressionnant, mais en même temps je l'ai tellement travaillé cette scène que du coup c'est passé tout seul, et j'ai fait ah ok, bon c'est cool, mais voilà.
Ça donne des envies de continuer dans la comédie et de plus que le mannequinat peut-être, tu t'es plus amusé encore là?
Ah oui, bien sûr, mais je me suis même trouvé hein, d'ailleurs. C'est là où je sais où mettre à disposition ma sensibilité et mon envie de vivre encore plein de choses et de vivre. Enfin, parce que ça m'a fait vibrer hein, ce rôle et puis même tout ça. Enfin, c'était super. Donc oui, je veux continuer. Sans problème.
Eh bien, en tout cas, Miss, c'est un très beau film à ne pas manquer. C'est sorti depuis mercredi dernier au cinéma. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Et tout de suite, pour donner l'eau à la bouche, voici la bande-annonce.
Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés.
Mon rêve, c'est d'être Miss France.
Debout là-dedans!
Je vais faire Miss France.
C'est garçon.
Bah voilà, c'est ça, oui.
J'ai besoin de ton aide.
T'aider à quoi?
À devenir Miss France.
Non, je suis très sérieux.
D'accord.
Avant le physique, il y a le mental.
Je me sens plus fort en femme.
3, 4.
Voilà.
Oh, attends, je vais.
Oh, on dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà.
Hey, votre cale à l'entrée.
Vous devez savoir vous tenir droite, respirer, si ça peut vous aider. Je peux avoir une explication?
Il n'y a pas ma taille.
Il y a des perches jusqu'au 41.
Je fais du 42.
Montre-nous comment vous buvez du vin. Plus bas.
Même pour quelques millimètres.
Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire. Quelques millimètres.
Voilà, Miss, ça sort mercredi au cinéma. Ruben, Alexandre, merci. Merci d'avoir fait un si beau film, plein de messages sur le courage, sur plein de choses. Donc voilà, allez le voir au cinéma, un film soutenu par tous nos comités régionaux, que ça soit Miss Aquitaine, Poitou-Charentes ou Limousin dans notre région Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, merci à vous deux en tout cas d'être venus nous en parler aussi longuement dans notre émission.
Merci tous les comités.
Merci tout le monde, merci beaucoup.
Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec Pascal Arbillou et Stéphie Selma qui vont venir prendre votre place pour continuer à parler de Miss. C'est notre émission spéciale aujourd'hui. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Encore merci.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
C'est notre plus belle chance, c'est notre victoire.
Il est loin derrière le jour de notre départ.
S'il était possible un temps de se projeter,
j'aimerais qu'on soit unis à l'arrivée.
Je suis sûr qu'il y a la joie, la bonne humeur. J'imagine au fond de moi les cris du cœur. Il y a des claps, il y a des sifflets qui nous rassemblent.
J'en ai les oreilles bouchées tellement ça tremble. Laissez-nous y croire comme des enfants. Écrivera notre histoire innocemment. Écraver dans nos mémoires ce bout de temps. Si on ne peut rien prévoir,
stigmates sur nos visages que l'on effaçait, nos espoirs et le courage de tout dépasser. Les plus belles romances qu'on ait imaginées.
Et si simplement ce soir vous auriez tout changé. Mais que vive la musique de nos unions et le souffle de nos corps en émotion. Et les scènes que l'on partage avec passion. Il est bon de ressentir ce doux frisson.
Laissez-nous y croire comme des enfants.
Et rêver à notre histoire innocemment.
Et graver dans nos mémoires ce bout de temps.
Si on ne peut rien prévoir, imaginons.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé. Le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on continue notre coup de cœur ciné. Vous savez, c'est consacré évidemment au film Miss. Un véritable film coup de cœur pour nous. Parce qu'on est déjà un peu l'émission des Miss quand même. Hein. Donc, on est très heureux bien, de continuer cette spéciale avec Stéphie Selma qui est avec nous. Qui est dans le film, eh bien, notre Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre Miss PACA.
C'est ça, et qui à la base, enfin au début du film n'est pas très très sympathique, mais il va y avoir un switch sans trop en dire.
Elle va être formidable.
C'est vrai. Oh,
ouais.
Qu'est-ce
que c'est je le dis vraiment. Elle va donner beaucoup d'émotions cette Miss PACA. Vous le découvrirez. Et puis Pascal Arbillot qui est avec nous, qu'on est très heureux de retrouver aussi dans notre émission. Bonjour Pascal.
Bonjour. Comment ça va?
Ça va très très bien. Merci Pascal d'être avec nous. Moi, je te connais tellement souriante, Pascal, tout le temps pleine de vie et tout. Et là, on retrouve un peu un personnage un peu fermé, un peu la Sylvie Tellier, hein, dans certains sens.
Oui, oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais peur de faire ça. C'est très bizarre. J'avais, ouais, c'était, oui, de rester droite, sérieuse, sans chercher finalement à être aimée. C'est quand même une petite faille qu'on peut avoir en tant qu'acteur, quoi. Et j'ai adoré faire ça. Mais j'étais très en confiance aussi avec Ruben. Qui est un metteur en scène qui est tellement, tellement généreux, tellement bienveillant, que ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce genre de rôle. Et j'aimerais bien en refaire d'autres comme ça.
Sylvie, t'as donné quelques conseils ou pas? T'as pu la rencontrer avant le tournage?
Non, aucun. Parce que justement, c'est pas Sylvie, c'est pas Geneviève de Fontenay. C'est peut-être un mix des deux, mais c'est surtout. Non, parce que c'est une figure maternelle aussi, beaucoup. C'est une. Il y a beaucoup de personnages féminins dans le film et beaucoup de féminités différentes. Et elle représente une forme d'autorité, mais qui est juste.
Qui est attachante en même temps, je dirais.
Oui, parce que je pense que c'est comme tous les gens apparemment distants, apparemment froids. Souvent, ce sont des gens peut-être les plus sensibles. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est dans la vie, on s'en rend souvent compte. Moi, j'ai longtemps été impressionnée par les gens très distants, très froids. J'avais l'impression qu'eux maîtrisaient plein de choses et que moi, j'étais une espèce de feu follet. Et en fait, je me rends compte que parfois, je suis peut-être plus forte qu'une personne apparemment très, très contrôlée.
Mais on sent qu'Amanda a beaucoup de cœur et finalement une rigueur, comme ouais, tu dis, une justesse. Et ça, je trouve qu'on le sent de suite, ouais, finalement. Et un regard doux, tu vois.
En fait, ouais, comme une maman qui a envie que ses enfants se progressent. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas, envie d'aider les autres aussi, d'une certaine manière, mais de les pousser dans leur retranchement pour qu'ils progressent. Parce qu'elle n'est pas là juste pour faire des câlins, quoi, pour flatter.
Stéphie, est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu aurais aimé participer à une élection comme ça?
Alors.
Parce que t'as la taille, en plus.
Oui, il faut que j'aille au bout de la vérité. Quand j'étais très petite, j'étais fan du concours, donc c'était un événement familial. Ma mère faisait des hamburgers, on était tous devant la télé, et je prenais des feuilles à quatre, et je me faisais une banderole Miss Martinique, avec la couronne qui allait avec. Et donc je défilais pendant toute la soirée, voilà, j'étais très inspirée. Après,
des photos de ça ou pas?
Je non, pense que je dois avoir une ou deux photos de ça. Et c'est vrai.
Ah oui, il va falloir, oui.
Je demande à ma mère de me retrouver ça. Mais c'est vrai que par la suite, moi, j'ai fait un peu de mannequinat et j'ai été moins emballée par ce métier. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, j'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui font du mannequinat, parce que l'idée d'arriver dans un casting, qu'on ouvre un book et qu'on regarde simplement des critères physiques et voilà, ouais, et rien d'autre, pour moi c'était assez violent. Donc mon envie s'arrêtait à l'envie de que j'avais quand j'étais petite. Mais j'ai envie de parler des Miss aussi qui étaient dans le film, et on a fait des super rencontres et on était une quinzaine de jeunes femmes, et c'est vrai qu'on se dit, bon, un tournage avec autant de femmes, comment ça peut se passer? Et au contraire, il y avait vraiment une solidarité, de la bienveillance et des filles très intelligentes et très bienveillantes.
Quel est votre meilleur souvenir de tournage à toutes les deux?
Oh, il y en a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, parce que ça a été très, très riche. Mais je pense quand même de voir Ruben faire travailler Alexandre et de le voir sur le plateau final, dans la scène finale du film, et c'était quand même quelque chose. C'était très, très fort, très, très fort. Après, j'ai des gros souvenirs de soirées. On a fait une soirée Miss avec toute l'équipe, tous les techniciens, le moindre stagiaire, et on a fait un faux défilé, mais en peignoir, tellement joyeux. C'était tellement génial, cette ambiance de film.
Et on a fait aussi une élection Mister.
Mais bien sûr, Mister...
En fait, tous les hommes de la...
Tous les hommes ont défilé. Voilà, il n'y avait pas que pour les hommes, quoi. Il n'y avait pas que pour les femmes, plutôt.
Donc on a eu le droit à ça.
On a élu notre Miss, Mister.
Voilà. C'était super, parce qu'il y avait... comme tu disais, d'ailleurs, Pascal, Ruben, c'est quelqu'un qui est très dans le collectif, donc qui génère, en fait, une envie commune d'aller au bout. Voilà, c'est une troupe.
Il n'y a pas d'hiérarchie.
Et pour le coup, concernant la scène, moi, j'ai été bouleversée par Alexandre et sa personnalité et sa grâce naturelle. La scène à laquelle je pense, c'est une scène où on est tous les deux dans notre chambre d'hôtel, et c'était une scène qui m'a bouleversée, c'est-à-dire que de le voir comme ça et de voir son courage, parce que finalement c'est aussi un personnage qui lui ressemble un peu, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un de très courageux et quelqu'un qui est tellement à lui-même dans la vie que j'ai été saisie par l'homme qu'il est finalement dans cette scène, et c'était pour moi très émouvant.
Mais le pire, c'est qu'au fur et à mesure du film, on oublie complètement que c'est un homme.
Bien sûr.
C'est ça qui est absolument incroyable, la transformation que l'on voit au fur et à mesure du film. Quand on vit l'élection, parce que là, c'est vraiment le plateau avec Miss France, générique. Alors nous qui la vivons aussi de l'intérieur sur un vrai plateau, qu'est-ce que ça a donné pour vous de vivre une fausse élection comme ça, avec du public en plus?
Alors, c'était assez joyeux. Moi, au début, j'avoue que j'avais un petit stress sur les défilés en maillot de bain. Parce que voilà, quand on dépasse la trentaine, qu'on aime la raclette, il y a un moment où tu te dis, bon, il va falloir se préparer. Et c'est vrai que comme ce sont toutes des jeunes filles qui ont juste la vingtaine, tu vois, je me disais, mais gaulé de fou, quoi. Donc évidemment, j'ai fait une petite diète avant, qui n'a pas duré très longtemps. Et Rume.
Dans le film, mais je comprends la pression. Moi, j'aurais été incapable. Non, mais moi, alors là, je sais pas. Ou alors j'aurais perdu 50 kilos, j'aurais été un cadavre.
Et j'ai une pudeur absolue. Mais Ruben, comme c'est quelqu'un de qui aime les gens et qui aime que les gens soient beaux et bien les filmer, il a vraiment filmé enfin en sorte que voilà que chacun soit mis en valeur et même si j'avais un peu de ventre.
C'est pas vu.
Merci Ruben. Parce que j'avais trop abusé sur la raclette, c'était juste après les fêtes, etc. Enfin, j'ai fait n'importe quoi, concrètement.
Bon, en tout cas, vous allez passer un bon moment, c'est sûr. Vous allez aller voir Miss au cinéma. Vous allez passer un super moment, c'est un beau message. Un beau message de courage, d'espoir pour beaucoup de monde, je pense. Et c'est, voilà, c'est assez universel. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous voir. Et on va se quitter avec un nouvel extrait. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais.
Ouais, mais je pensais que tu serais un peu fière de moi.
Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel.
Tu lâches rien. Et tu vas en finale.
Bienvenue à la cérémonie Miss France. J'aime les enfants, les handicapés. Enfin non, je n'aime pas les...
Pourquoi voulez-vous devenir Miss France ?
Pour devenir quelqu'un.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et on va donc se retrouver lundi prochain dans Chute, on écoute la télé avec un autre spécial Slalom. Le film sortira au cinéma, si tout va bien, le 4 novembre prochain. Charlène Favier, sa réalisatrice, sera avec nous, avec Noé Habitat également, qu'on aura le plaisir de retrouver. Nous aurons également le plaisir eh bien, de recevoir les trois Cafés Gourmands à l'occasion de leur nouvel album, leur deuxième album intitulé Comme des enfants. Eh bien, ils seront nos invités exceptionnels. Et puis, bien sûr, page spéciale. Lundi prochain, ici, tout commence avec notamment Catherine Marshall qui sera notre invitée exceptionnelle. Elle fait son arrivée dans la nouvelle série quotidienne de TF1. Donc, vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
RCM, au cœur de la nouvelle Aquitaine.
Allez, n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé, c'est également toute la semaine avec la quotidienne à 12h30 sur RCM. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rien de plus simple, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram. Chute, on écoute la télé, téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous retrouve donc également lundi prochain 14h pour la Grande Hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur RCM.
Chute, on écoute la télé avec les piscines de l'étang. Votre concessionnaire Everblue en Charente-Maritime. Construction, rénovation, entretien, produits piscine. Deux adresses à votre service. 116 cours Paul Doumer à Sainte et 17 avenue du Général de Gaulle à La Tremblade ou sur lespiscinesdelétang.com.